Chronique Mutante.
Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes dans Chronique Mutante, comme tous les samedis de 18h à 19h. Et nous avons 5 ans et une semaine.
Ouais. C'est fatigant d'avoir 5 ans.
Coucou Thaïs, tu nous entends?
Oui, je vous entends bien. Et vous?
Très bien.
Oui, très bien. On a un programme chargé aujourd'hui.
Oula.
Donc on va commencer par interviewer Thaïs justement sur la loi anti-squat qui est en train de qui a été chassée par la force et qui revient par la fenêtre comme on dit. ensuite, un petit témoignage par rapport à des choses qui se sont passées hier dans le cadre de la journée internationale des travailleurs. Et puis un horoscope, une revue de presse, un passage de Jean-Mic Psoriasis. Une petite capsule et le billet d'humeur de Baxter.
Et tout au long de l'émission, nous allons écouter des extraits de la compilation Pandemos qu'on peut acheter à prix libre sur Bandcamp, qui est une compilation en soutien aux travailleuses et travailleurs du sexe.
Waouh, trop bien. Musique chouette.
Juste dans ces nouveaux temps de répression inquiétante, je vous demanderai de ne plus m'appeler par mon nom légal de Jeanne Michel. Ne m'appelez plus par mon nom de Jeanne Michel, qui est mon nom légal au cas où vous me cherchez pour des questions de légalité.
D'accord, très bien. Et du coup, on doit t'appeler comment?
Comme tu veux, mais pas Jeanne Michel.
Très bien, Robert.
Ok, Jeanne okay. Michel.
Trop bien, Jeanne Michel. Oh,
pardon. Et vous pouvez nous rejoindre sur le chat de Radio Panique, radiopanique.org, en cliquant sur chat dans la colonne de gauche. Voilà.
Est-ce qu'on part en musique et ensuite on retrouve Thaïs pour la loi anti-squat?
Bah oui, faisons ça.
Alors, je vais vous demander de me donner un chiffre entre 1 et 40, parce que oui, il y a 40 chansons dans cette
chanson. 7.
7, ça sera magnifique. C'est notre ami Jean-Michel Tarr avec Chasse et l'ennui.
Ah oui, eh bien. Trop bien. Je l'ai écouté celle-là.
Oula!
L'ordre se complète dans l'hétéronormalité.
Le désordre se complote partout ailleurs.
Désolée, ça s'enchaînait les chansons. Bienvenue, vous écoutez Chronique Mutante.
Chronique Mutante.
Je croyais que c'était l'ordi. C'est la merde, qu'est-ce que j'ai foutu encore?
Un jingle intempestif.
Bon. On passe aux choses sérieuses.
Thaïs?
Oui, je suis là.
Alors, vous vouliez nous parler de la loi anti-squat qui est de retour pour nous jouer des mauvais tours.
Oui, alors je sais pas, peut-être que je commence par un très bref récapitulatif des épisodes précédents, si tout le monde s'en souvient.
Previously in la loi anti-squat.
Alors, en 2017, nous étions dans une situation où les seules possibilités judiciaires, juridiques, de procéder à des expulsions d'occupation étaient toujours via la justice de paix ou la requête unilatérale au tribunal de première instance. Et à cette époque-là, certains députés avaient jugé bon d'essayer d'introduire une nouvelle loi qui allait ajouter une troisième possibilité, ainsi qu'une criminalisation avec des peines et des amendes de l'occupation. Alors, je rappelle que cette nouvelle loi proposait de faire une expulsion via le procureur du roi qui pouvait éditer une ordonnance d'expulsion dans les 8 jours, et qu'en cas de non-respect de cette ordonnance, il y avait des peines de prison ou des amendes qui étaient prévues. La seule chose qui était possible de faire contre ce type d'expulsion, c'était un recours contre l'ordonnance en justice de paix. Et d'autre part, cette loi introduisait aussi, pour le simple fait d'occuper un bâtiment sans titre ni droit, entre guillemets, des peines de prison et ou des amendes qui pouvaient être poursuivies au pénal. Cette loi avait été finalement, je pense, votée après une longue procédure au Parlement, en fin 2018.
Et elle a été partiellement annulée au...
Pardon?
Et elle a été partiellement annulée par le Conseil constitutionnel.
Attends, j'y arrive. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aussi, toute une série d'associations et d'individus qui défendent le droit au logement et les occupations avaient introduit un recours contre cette loi à la Cour constitutionnelle, avec une série de 40 arguments, si je me souviens bien, qui s'appliquaient soit sur des parties de cette nouvelle loi, soit sur l'ensemble de la loi. Et finalement, le 12 mars 2020, donc quasiment 2 ans et demi après tout ça, la Cour constitutionnelle avait donné son rendu final de jugement qui annulait la partie uniquement sur la nouvelle procédure d'expulsion via le procureur du roi et une ordonnance. Voilà.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? En fait, on se disait, ouais, c'est chouette, enfin, c'est chouette, ça aurait pu être mieux, mais c'était quand même déjà un petit pas de fait, mais...
Mais donc, on en revenait à la situation antérieure, c'est-à-dire des expulsions uniquement possibles via la justice, une confrontation en justice de paix entre les parties, ou l'ordonnance unilatérale via le tribunal de première instance. Et restait quand même dans la loi la possibilité de poursuivre au pénal le fait d'occuper un bâtiment sans titre ni droit. Ok. Toujours est-il que le 16 avril 2020, dans une période pas anodine, les mêmes parties qui avaient introduit cette loi, cette première version de la loi qui a été partiellement annulée il y a 3 ans, ont décidé de la réintroduire. Pour essayer de réintroduire la fameuse nouvelle système d'expulsion. Ok? Et ça, c'est donc les partis en question, c'est des députés de l'OpenVLD, du CDNV, de la NVA et du MR. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais voilà.
La crème de la droite.
Voilà. Et donc, la raison pour laquelle la Cour constitutionnelle avait annulé cette expulsion, cette nouvelle procédure d'expulsion via le procureur du roi, c'est parce que le procureur du roi n'est pas un juge indépendant qui instruit à charge et à décharge, en fait. Ok? Donc il n'y a pas de possibilité de confronter les parties dans ce type de procédure. Donc toujours est-il qu'ils sont ces charmants députés que nous avons tellement de ces quatre parties à droite, on se sont dit ah ben tiens, on va peut-être réintroduire la loi en remplaçant le rôle du juge d'instruction, du procureur du roi, par celui d'un juge d'instruction, puisque le juge d'instruction en principe est quelqu'un qui instruit à charge et à décharge. Et donc on se retrouve avec exactement le même article de loi et la même nouvelle procédure d'expulsion par ordonnance, mais qui serait faite par le juge d'instruction à la place du procureur du roi.
Et donc toujours pas par un juge de paix.
Et toujours pas par un juge de paix. Il y a toujours moyen de aller contre cette, en appel contre cette ordonnance via un juge de paix, évidemment, puisque sinon ce ne serait pas là. Et ils ont aussi mis quelques dispositions supplémentaires, c'est-à-dire que la, grosso modo, les personnes qui occupent le bâtiment doivent être mieux informées que l'ordonnance a été prise, c'est-à-dire qu'elle doit leur être remise si possible, entre guillemets, en main propre, c'est-à-dire en rentrant dans le bâtiment, et je suppose que vous voyez ce que je veux dire. Voilà.
Et du coup, est-ce qu'il y a des réactions qui ont été faites comme ça a été le cas pour la première version de la loi anti-squat ou...
Alors voilà, cette loi a été déposée, comme je le disais, le 16 avril. Et va-t-il pas qu'elle passe directement, elle est prise directement en considération par la commission de la justice le 23 avril. Ok. C'est-à-dire un peu dans la période où tout le monde a autre chose en tête. Et donc, elle n'a pas encore été votée formellement en commission de la justice. Donc, le parcours d'une loi, c'est toujours un passage en commission de la justice. Enfin, la commission, en commission de la justice, ouais. Et puis un vote au Parlement. Ok. Elle n'a pas encore été votée, elle est juste passée une première fois, juste abordée par la commission de la justice, mais elle va poursuivre son chemin. Il se pourrait, cependant, que la commission demande un avis du Conseil d'État. Je rappelle que pour une proposition de loi qui est introduite par des députés, au contraire d'un projet de loi qui est introduit par le Parlement, par le gouvernement, il n'y a pas d'avis obligatoire du Conseil d'État, c'est-à-dire le Conseil d'État donne un avis sur la légalité ou pas de la loi. Et d'autre part, il pourrait éventuellement, mais rien n'est garanti, demander une audition, comme ça avait été le cas à l'époque de la toute première version de la loi, d'autres parties extérieures, c'est-à-dire par exemple les associations de droit de défense, du droit au logement. Et ils avaient à l'époque aussi demandé l'avis du Conseil du procureur du roi. Et là, je suppose que ce serait un avis en commission du Conseil des juges de paix. Voilà. Mm-hmm. Toujours est-il qu'on en est là. Ça nous est sorti un peu comme ça du chapeau très très vite. Nous sommes en train de réfléchir avec les associations qui avaient à l'époque introduit le premier recours sur comment suivre le dossier, et effectivement, s'il y a une audition, nous irons, au moins. On prépare aussi un petit texte explicatif pour essayer de vous résumer ce que je viens de vous dire, parce que je pense que personne n'a eu le temps de suivre ce qui s'est passé en dehors des quelques personnes qui ont été mises au courant. Donc ça devrait sortir au milieu de la semaine prochaine pour diffusion. Et puis, si tout ça, si cette loi continue son chemin, on va se retrouver dans la même situation qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire avec seule option de nouveau réintroduire un recours au Conseil constitutionnel et voir si cela est faisable sur les bases juridiques.
Donc voilà, c'est parti pour un nouveau marathon.
Voilà, pour rappel, une procédure comme ça prend environ 2 ans.
Ok.
Donc il y a 2 ans de tranquille. Non,
parce que la procédure n'est pas suspensive. Donc une fois que la nouvelle version de la loi est votée au Parlement, elle est applicable.
Ok.
Jusqu'à ce qu'elle soit cassée par la Cour. Donc on peut alors il y a possibilité pour un citoyen et ou des personnes morales, des SBL reprises, bref, de déposer un recours au Conseil constitutionnel, mais ce recours n'est pas suspensif, la loi continue à s'appliquer jusqu'à un arrêt éventuel qui la casse. La Cour constitutionnelle. Donc, Voilà.
Je vais te couper parce que l'émission est très chargée, il faut qu'on avance.
Oui. Merci Thaïs pour avoir éclairé nos lanternes.
Et nous avons un témoignage d'une personne concernée apparemment.
La conclusion c'est casse la loi.
Oui, bonjour, c'est Miss Déshydratation. Je voulais juste dire, pour commencer, que c'est quand même beaucoup plus facile de sucer un juste d'instruction que le procureur du roi. Il y en a plus, ils sont plus facilement corruptibles. Déjà. Et une fois qu'on a dit ça, on doit penser à toutes les personnes, dans mon cas, qui sont déshydratées. Et qui ont besoin d'un toit pour se régénérer après 3 jours d'orgie GHB champagne.
Ah, oh, j'adore ta vie.
Ouais, je sais, c'est pas facile tous les jours, chérie. Et j'aimerais qu'on pense à ces personnes une fois dans notre vie, parce qu'on, d'habitude, on le fait pas.
Merci, Miss Déshydratation.
Avec grand plaisir.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, hier, c'était la journée internationale des travailleurs. Normalement, il y a des rassemblements, de la fête à la place Roupe, etc. Mais comme voilà, la situation est ce qu'elle est, ça n'a pas pu se faire. Mais il y a quand même des gens qui se sont réunis.
Bah oui, il y a quand même des gens qui ont essayé de s'organiser. Ils ont essayé de se réunir, hein. Mais tout en respectant les règles de distanciation qu'on connaît maintenant si bien. Ils ont même fait 2 mètres, eux, avec des gants, des masques, tout ça, dans le but d'organiser de la solidarité dans le quartier. Bon, ben, rapidement, il y avait pas mal de policiers en civil qui sont arrivés de toutes parts, et c'est au final une dizaine de combis qui sont arrivés pour gérer une petite trentaine de personnes sur la place. Directement, ils ont ciblé la seule personne étrangère qui vient du Soudan, heureusement à ses papiers, qui est isolée. Et là, il a été isolé du groupe, on lui a parlé évidemment bien agressivement, il a été foutu à poil au commissariat, à la différence des autres personnes. Plusieurs personnes ont été arrêtées et on verra ce qu'il se passe avec tout ça. Mais bon, tout le monde a été relâché. Mais donc il y a un témoignage de quelqu'un qui était présent là, qui aimerait rappeler que ces pratiques disproportionnées de la police touchent depuis longtemps et régulièrement des personnes plus isolées, plus racisées, etc. Mais que ça me fait penser à cette phrase « Qui ne bouge pas ne prend pas conscience de ses chaînes ».
Quand on va écouter ça, Lizzie.
Moi, ce que je trouve assez sidérant dans cette qu'on soit simplement une poignée de personnes à essayer d'organiser un réseau de solidarité, parce qu'en fait, la crise du corona, on le sait, va amener à une crise sociale et économique intense, et qu'il y a pas mal de personnes, de familles ou de personnes isolées qui se retrouvent dans des situations d'extrême précarité, n'étant plus en capacité de payer leur loyer parce que obligé de travailler au noir, etc. Donc, de plus pouvoir payer son loyer, plus pouvoir acheter à manger, plus pouvoir se nourrir, etc. Enfin, sans protection sociale. Et en fait, l'idée là, c'était simplement de se réunir pour mettre en place un système de solidarité intercollectif de Saint-Gilles, et que je trouve que la démarche de la police a été extrêmement paternaliste. Il n'y a pas eu de dialogue possible. Le ton employé était extrêmement condescendant, comme si on était d'office des personnes un peu attardées mettant en péril la sécurité et la santé publique. Donc l'idée même que les actions sont forcément pas réfléchies, alors même que en fait c'est le nassage qui a enfreint les règles de sécurité et de distanciation sociale, puisque nous les observions, on avait presque tous et toutes des masques, on est tous et toutes des personnes qui respectons le confinement de manière stricte, sauf dans la mesure où on met en place des actions collectives pour venir en aide à des personnes en galère. Et du coup, ce truc de la rationalité de l'intervention, est-ce bien normal que 25 personnes, 25 hommes et une femme débarquent sur une place, encerclent des gens sans dialogue possible, sans sommation, sans avertissement, sans possibilité de se disperser, sans possibilité d'expliquer ce qu'on est en train de faire et comment on est en train de le faire. Et en vrai, je pense qu'il y a pas mal d'analyse politique qui porte à penser que le système patriarcal devrait toucher à sa fin. Et en fait, là, on a juste la démonstration ultra, comment dire, visible d'une force masculiniste qui débarque et qui fout tout le monde sous pression et qui met les gens en danger, clairement. en les mettant dans des combis communs, en faisant des gardes à vue à 10-15 par cellule. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens en mettant des gens à poil. Ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est fou que moi, je ne cesse d'être impressionnée par le fait que le pouvoir est dans les mains de gens irresponsables, en fait, simplement. Et que c'est pas logique, en fait. Et c'est présenté comme des mesures super rationnelles, sous couvert de la loi, de la structure sociétale telle qu'elle est maintenant. En fait, il faut arrêter de prendre ça pour des mesures rationnelles. Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas logique. C'est contre la vie. Ça va pas.
Et on est de retour.
Quel bel enchaînement.
Non, chronique mutante. Est-ce qu'on passe un morceau de musique ou on enchaîne le programme?
Je pense qu'il faut enchaîner si on veut tout passer.
Allez.
On passe au Queeroscope.
Ce mois-ci apporte quelques messages mitigés, mes chers, mais aussi suffisamment de lenteur pour que nous ayons amplement le temps de les régler et de les trier. Même en cas de pandémie, c'est la saison du taureau. Il est temps de se reposer dans l'abondance de ce qui est vert et doux et vivant et enivrant. Là où j'habite, les coquelicots et les lilas sont en pleine floraison. Les fleurs de cerisier tombent et les pivoines bourgeonnent. Que signifie ralentir et puiser dans cette source de nourriture profonde pendant les périodes difficiles ? Cela signifie qu'un jour de joie et d'espace peut être suivi d'un jour de chagrin ou d'enfermement. Cela signifie que nous pédalons au fur et à mesure que la pluie va et vient. Cela signifie que nous façonnons en harmonie avec le rythme du sommeil, des repas et des étirements. Et dans cette focalisation sur juste aller au bout d'un jour, avec une certaine prise de conscience vers la joie, en tant que médecine, nous changeons tous. Nous apprenons en ce moment des choses qui seront avec nous pour le reste de nos vies. Non pas comme des modèles de trauma qui pourraient nous rendre méfiantes des foules à partir de maintenant, mais comme des compétences durement acquises pour savoir comment agir de manière responsable à partir d'un endroit de compassion. Comment sacrifier, comment négocier les besoins, comment comprendre nos réseaux fragiles de dépendance mutuelle et comment l'amour peut être une action plutôt qu'un sentiment. Cela peut ne pas sembler si héroïque pour le moment. Vous pouvez vous sentir épuisé, en colère et effrayé, vous pouvez vous glisser dans vos protocoles de sécurité en raison de combien vous avez besoin de vous sentir connecté, vous pouvez juger d'autres personnes pour avoir pris des risques similaires ou des risques que vous considérez plus dangereux. Pour tout le monde toujours en lockdown ou juste en train de le commencer, cela peut ressembler à un moment où nous sommes déchirés les unes des autres. Selon l'endroit où vous vivez, le nombre de maladies et de décès que vous avez vus de première main, cela peut sembler brutalement nécessaire ou difficile à prendre vraiment en sérieux. Vous pourriez en avoir assez des amis bien-aimés avec lesquels vous avez choisi de vivre, ou manquer d'une intimité profonde avec une partenaire que vous n'avez pas la chance de voir ou de toucher en ce moment. Chaque petite chose peut déclencher la colère, les pleurs ou la dépression. Tout cela est incroyablement normal. Depuis que cette pandémie a frappé, nous vivons tous au jour le jour, traversant un internel maintenant, vers un avenir qui semble incroyablement loin et difficile à imaginer. Chaque jour saigne dans le dernier, et chaque jour nous nous concentrons sur ce qui est devant nous. Tendre la main à des amis et à la famille, se rappeler de manger quelque chose de sain, gérer la tristesse, la déconnexion ou les conflits dans des relations qui semblaient stables il y a quelques semaines à peine. Aucune d'entre nous n'est à son meilleur en ce moment, mes chéris, mais nous apprenons de cette expérience. Ce mois-ci, au milieu de la splendeur annuelle tauréenne, nous faisons un voyage dans le temps. Vénus, planète de la façon dont nous avons tous compris que nous étions queer et que l'amour queer et tout, se déplace rétrograde en Gémeaux, tout en faisant un carré à Neptune. Ce qui veut dire. Vénus, la partie de nous-mêmes qui veut entrer dans un bain à remous avec tous nos amis et se lécher la crème fouettée les unes sur les autres, n'est-ce pas ce dont nous avons tout envie ? Apparaît dans un signe où elle est très active mentalement, vouloir penser, enquêter, parler et fantasmer sur nos relations. Le 13 mai, Vénus commence au rétrograde et ce jusqu'au 25 juin. Les rétrogrades sont des moments où nous remontons dans le temps. Imaginez que vous avez perdu vos clés lors d'une promenade et que vous revenez sur vos pas pour les retrouver. En revenant sur vos mêmes étapes, vous avancez plus lentement et regardez plus attentivement. Le monde offre ses surprises et ses beautés que vous avez ignorées la première fois. Enfin, Vénus fait face à Neptune tout le mois, et Neptune est connu pour nous faire sortir de la réalité et entrer dans le monde du potentiel et des possibilités. Donc même si nous remontons dans le temps pour trier ce qui se passe dans nos relations, les rétrogrades de Vénus sont souvent des moments où nous pardonnons de vieilles rancunes, trouvons des conclusions avec des ex ou ravivons des relations. Nous voyageons également dans le temps, parce que Neptune est un portail vers le temps non ordinaire, et en particulier les mondes que nous pouvons créer en les imaginant suffisamment forts pour que nous commencions à façonner le monde à leur image.
Entre le passé et l'avenir, en restant incarnés par des plaisirs quotidiens lents et nourrissants, nous pouvons faire des choses incroyables ce mois-ci. La militante et philosophe Johanna Messi a un exercice pour aider les personnes confrontées à l'incertitude et à la peur dans les moments difficiles. En adaptant cet exercice, je vous demande d'imaginer votre futur moi, la partie de vous qui a survécu au chagrin, à la terreur ou à l'ennui et à l'isolement de ces temps. Je veux que vous imaginiez votre futur moi comme putain de cool. Sage mais pas pharisaïque. Merci Google Translate, nouveau mot, pharisaïque, qui veut dire arrogante. Profondément aimée, profondément amoureuse de vous-même et peut-être d'une ou deux ou plusieurs autres, capable de se présenter pour le travail acharné de l'intimité, capable de continuer à grandir et à apprendre, savoir pour qui vous choisissez d'être responsable et qui est responsable envers vous. Cette personne vraiment cool qui est votre futur moi était une minuscule graine en ce moment. C'est le moment où vous avez commencé à apprendre ce que vous devez savoir pour devenir ce futur mauvais cul. Non, badass n'est pas traductible. Donc... pour les horoscopes de ce mois-ci, je vous invite à considérer cette époque comme si vous étiez votre futur moi et à vous rappeler ce que vous avez appris maintenant, à l'époque, dans la crise, ce qui vous a aidé à devenir qui vous êtes aujourd'hui, tandis que vous vivez ces leçons jour après jour, essayez la perspective future. Alors que vous regardez en arrière de l'avenir, creusez un peu plus profondément dans votre passé pour voir où vous pouvez vous soigner. Félicitations, le temps linéaire n'existe plus. Comme d'habitude pour ces horoscopes, préférez-vous à votre signe de Vénus et de lunaire en premier ? Bélier, ce fut le moment où vous avez appris comment sortir d'une ornière, comment quelque chose ou quelqu'un est magnifiquement étrange quand vous l'aimez assez pour regarder de près, comment libérer vos attentes et recevoir une toute nouvelle perspective. Taureau, c'est le moment où vous avez appris ce qui vaut la peine de s'accrocher et ce qui ne le vaut pas, comment être avec les gens que vous aimez sans mots à distance, comment être amoureuse du monde, vulnérable et de sa propre vulnérabilité. Gémeaux, c'est le moment où vous avez appris comment nommer ce dont vous avez besoin et trouver des moyens créatifs pour répondre à ce besoin, comment se connecter à la joie, comment choisir sa propre vie, vos connexions, au lieu de les laisser vous choisir, comment laisser vos rêves et fantasmes vous faire basculer en sachant que vous êtes tenu et aimé. Cancer, c'est le moment où vous avez appris comment être vraiment avec vos sentiments, comment les laisser passer à travers vous sans vous faire prendre dans des histoires destructrices, comment laisser le passé être le passé, comment avoir confiance que vous savez guérir. Lion, c'est le moment où vous avez appris, je vais arrêter de le répéter, comment que vous n'avez jamais été choisi, vous appartenez toujours, que votre cœur contient des constellations, que vous n'avez pas à travailler dur pour rester ouverte, ce chagrin vous traverse et laisse place à la joie. Vierge, vous avez appris que même vos plus petits choix comptent, que ce que vous faites chaque jour façonne qui vous êtes année après année, que ce qui semble invisible maintenant, les façons dont vous vous efforcez d'apprendre et de grandir de vos efforts, de vos erreurs, l'effort que vous faites pour rester patiente et vous retenir du jugement et de la critique, ces actes d'amour ingrats, qui pourraient passer inaperçus maintenant, seront ce que les gens voient le plus clairement sur vous dans les années à venir. Balance, vous apprenez comment relier les points entre vous et les personnes qui seront votre future communauté. Comment laisser la colère et la peur être des enseignantes plutôt que des gardiens de prison. Comment avancer vers ce que vous savez être juste. Scorpion, comment savoir quand il est temps de résister, quand il est temps de libérer, qu'il y a des fins quotidiennes et que rien ne finit vraiment. Cette peur ne doit pas nécessairement être la fin de l'histoire, mais pourrait être le début de l'apprentissage de ce qui se trouve de l'autre côté. Sagittaire, ce que ça fait de rester quand on ne veut pas, comment les conflits peuvent être résolus dans le temps, comment dire non au lieu de disparaître, comment garder la foi, continuer à rire et croire au meilleur côté de toutes celles qui vous montrent leur pire en ce moment. Capricorne, la différence entre offrir de l'aide et remplir une obligation, comment vous valoriser au-delà de votre compétence les merveilles d'une bonne nuit de sommeil. Verseau, que vos connexions peuvent bouger, que vous êtes au centre de votre propre histoire. Ces connexions qui peuvent bouger, susciter et sauter dans de nouvelles façons créatives d'être réelles, que ce que vous aimez vous façonne, que vous pouvez changer votre concentration et changer votre forme. Comment changer de forme sans se perdre ? Poisson, c'est le moment où vous avez appris que ce que vous avez hérité de votre famille ne vous définit pas, mais que vous ne pouvez pas non plus l'ignorer, que vous pouvez faire différents choix, que vous méritez une maison où vous ne vous sentez ni isolé ni envahi. Rêver l'avenir est tout aussi important que rester présent.
Merci. Merci.
Traduction de Corinna que vous pouvez trouver sur le site Autostraddle en English.
On fait une pause musicale.
16.
Ok.
Le numéro 16.
On va écouter Monkey avec Fuck Off, I'm Happy, et vous choisissez toujours les chansons les plus longues.
Ouais, ah merde.
On aime ça.
c'est l'heure de la revue de presse.
Anna, la revue de presse.
Queer.
Alors, devant l'annulation de toutes les prides du monde entier, les organisateurs de Global Pride travaillent sur une pride en ligne de 24 heures. L'espoir est de coordonner l'événement avec des prides allant de Sydney à San Francisco et qui auraient chacune l'occasion de présenter des performances, des discours ou d'autres contenus. L'événement aurait lieu le 27 juin, date anniversaire des émeutes de Stonewall. Les organisateurs ouvrent actuellement des partenariats avec des villes sur les 5 continents. Le gouvernement de Trump finalise un décret de loi sur les soins de santé qui devrait remplacer celui créé par Obama, le fameux Obamacare. Le projet permettrait la discrimination des personnes LGBT dans l'accès aux soins, ce que Obama avait rendu illégal. Le projet laisserait aux docteurs la possibilité de refuser de soigner des personnes queer en arguant qu'il s'agit de leur propre liberté religieuse, la liberté religieuse des médecins. Une étude de 2010 révélait déjà qu'une personne trans sur 5 se voyait régulièrement refuser des soins. Alors, en Pologne, cela fait des mois qu'un camion de l'initiative Stop Pédophilie sillonne les villes polonaises pour diffuser des messages de haine à l'égard du présupposé lobby gay. Lancé par des ultra-conservateurs qui veulent criminaliser tout enseignement portant sur la diversité sexuelle et de genre à l'école, un fléau comparé par les haut-parleurs du camion à des viols d'enfants, ce camion a excédé de nombreuses personnes, forcées de l'écouter parce que confinées chez elles. Mais samedi dernier à Varsovie, deux automobilistes se sont mis en travers d'une avenue du quartier d'Ursinov, obligeant le chauffeur à s'arrêter. Pendant les 20 minutes qui précédaient l'arrivée des policiers, de nombreuses voitures s'étaient stationnées de façon à empêcher le camion de contourner l'obstacle, créant un petit embouteillage. Le drapeau de la fierté bisexuelle, rose, violet et bleu, est au centre d'une curieuse bataille aux États-Unis. L'organisation BiNet USA, groupe pionnier de la défense de l'identité bi, s'est mise en tête de récupérer des royalties sur son utilisation. C'est l'activiste Jane B. Shee qui a sonné l'alarme après avoir été contactée par BiNet USA, qui lui proposait de, je cite, « discuter de son utilisation du drapeau sans qu'aucun argent n'ait été versé à notre organisation » et l'inviter à trouver un deal financier. À défaut, BiNet USA l'a prié de supprimer les photos sur ses réseaux sociaux et sur son site, où Jane B. Shee vend quelques t-shirts et accessoires tricolores. Ces revendications sorties nulle part, assorties de menaces de poursuites à peine voilées, ont immédiatement enflammé la communauté bi américaine, dont la réaction a été assez unanime. On pouvait voir sur Twitter de nombreux doigts d'honneur photoshopés sur le drapeau. Après ce bad buzz, le compte Twitter de BiNet USA a depuis été supprimé. Après un mois et demi de confinement strict en Italie, le pays le plus durement frappé d'Europe par la pandémie, le gouvernement Conte a annoncé lundi la phase 2 de son plan de retour à la normale. Il prévoit entre autres que dès le 4 mai, les déplacements entre régions seront autorisés, mais uniquement pour les membres de la famille, pouvant attester de liens de sang ou acquis. Pour Archie Gay, donc c'est pas qu'on est super gay, mais Archie de Arc-en-Ciel, principaux réseaux d'associations LGBTQ+ transalpins, cela représente une intervention inédite et inacceptable de l'État qui définit de faire une hiérarchie des sentiments. La sénatrice du Parti démocrate, Monica Chiarina, a également fustigé cette mesure, prenant la défense des familles séparées, des couples qui n'habitent pas ensemble et des familles arc-en-ciel non reconnues. Au Royaume-Uni, Liz Truss, la ministre britannique des Femmes et de l'Égalité, a présenté son plan de réforme du Gender Recognition Act, loi sur la reconnaissance de genre, lors d'une session virtuelle du comité de son ministère, c'était le 22 avril. La réforme pourrait rendre la mise à jour du genre légal sur les certificats de naissance plus simple, plus facile et moins cher pour les personnes trans. Cependant, la loi exclurait les personnes mineures de la reconnaissance de leur identité de genre. Je cite, « Je crois fermement que les adultes devraient avoir la liberté de mener leur vie comme ils l'entendent, mais je pense qu'il est très important que, pendant que les gens développent encore leur capacité de prise de décision, nous les empêchions de prendre ces décisions irréversibles. » Ce dernier point interdirait donc aux mineurs trans de pouvoir légalement faire leur transition. Cette décision a suscité la colère et l'inquiétude des associations LGBT+ britanniques. Et enfin, je voulais partager avec vous des extraits d'une tribune qui a été écrite par Ludovic Jux, c'est un enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Est, et qui a publié un article sur Medium.com que vous pouvez trouver, et il y a d'ailleurs un lien vers une pétition, pour alerter sur le lancement massif de satellites par des entreprises privées. Et donc, il parle de Starlink, un projet monté par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, visant à fournir un accès Internet à haut débit et faible coût à l'ensemble du globe. Les 60 satellites lancés le 18 mars s'ajoutent aux 300 satellites déjà en orbite et ne représentent que la phase initiale d'un projet qui devrait compter au total entre 12 000 et 45 000 satellites. Le nombre final n'est pas encore arrêté. Le projet Starlink n'est pas isolé. Le projet Kuiper d'Amazon mise ainsi sur une constellation de 3250. Satellites et Facebook serait également sur les rangs pour proposer sa propre solution. À ces potentiels satellites, il faut encore ajouter ceux de nombreux autres usages, météorologie, militaire, géolocalisation. Une start-up russe du nom de Start Rocket envisage même des panneaux publicitaires réalisés sur la base d'une constellation de satellites miniatures. Vous imaginez un petit bandeau Coca-Cola au milieu d'une aurore boréale ? Sympa, non ? Et donc, nous sommes passés d'un satellite lancé en 88 à plus de 300 en 2018. Et on estime que d'ici 5 ans, plus de 2 millions seront lancés annuellement. D'ici 50 ans, pardon. Donc, les astronomes se disent aussi extrêmement préoccupés par la possibilité que la Terre soit recouverte par des dizaines de milliers de satellites, pouvant empêcher l'observation des étoiles. Et donc, voilà, au programme... L'humanité entière, quel que soit son lieu de vie, privée de son ciel étoilé, pour une voie lactée qui ne sera plus qu'un lointain souvenir. Un impact de l'éclaircissement des nuits, où la faune terrestre a évolué, évalué. Des milliards de débris spatiaux, il serait déjà 128 millions de moins de 1 cm selon l'Agence spatiale européenne, et des milliers de satellites se désintégrant chaque année dans l'atmosphère, avec les risques que cela peut entraîner. Et donc, même aujourd'hui, la grande majorité se consume et d'autres atterrissent dans le cimetière de l'océan Indien et d'autres ne sont pas contrôlés. Voilà, voilà.
C'est gay le monde.
Vive la 5G, quoi.
Alors, notre invité.
Bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Je suis Jean-Mimi Psoriasis, chef représentant des personnes atteintes de lucite et autres affections lumino-cutanées. La lucite est... Pour celles et ceux qui ont le privilège et la facilité de ne pas savoir ce que cela pourrait être, est plus communément reconnue comme la réaction allergique de la peau à ce danger ambulant qu'est le soleil. Et nous avons beaucoup, mais alors beaucoup souffert depuis le début de ce confinement. Et cette semaine, enfin, mes amis, mes amantes, mes ex et mes futurs, enfin, il a pu... Enfin, nous avons pu sortir nos corps assoiffés d'air dans les rues humides de la grande cité.
Est-ce qu'on pourrait enfin parler des gens pour qui le confinement est le plus difficile ? Non, je ne parle pas des pauvres, des putes et des racisés dont tous les sous-médias indépendants subculturels nous abreuvent d'informations dans nos niches militantes au point qu'on pourrait croire que la population prendrait conscience et acte contre les violences perpétuées à l'encontre de ces personnes appelées minorités parce qu'elles ne comptent qu'en mineurs. Non, je voudrais parler... de moi. Et des gens comme moi, nous les narcissiques, nous dont l'attention tourne autour de notre nombril si bien dessiné et parfaitement positionné au milieu de notre joli bedon tout doux. Nous qui avons besoin, un besoin vital, du regard des autres comme d'un énième miroir mobile au sein de notre constellation dont nous sommes le soleil. Mais un soleil sans étoiles, sans lune pour absorber, réfléchir sa lumière, qu'est-ce que c'est ? Rien qu'une grosse boule de gaz brillante et seule tournant sur un axe spiraleux, l'entraînant vite vers sa propre autocombustion, son dernier souffle de petit paix. Mardi dernier, je me réveille d'un teint de pêche de l'ancienne alcoolique fraîchement repentie, qui n'a pas encore célébré ses jours de sobriété d'un nombre de bouteilles proportionnellement égal au nombre de jours d'abstinence, avec des cheveux magnifiques au summum de leur ratio volume, brillance, crâne et volupté, mais après avoir passé une première demi-heure délicieuse à rire devant mon miroir gravé « C'est toi la plus belle », le vide petit à petit s'amplifia en moi. À quoi bon ? À quoi bon rayonner dans la pénombre de la solitude ? Pourquoi, oh pourquoi m'as-tu fait ça, petit pangolin ? Moi qui te trouve charmant, fourmilier, écailleux, précieuse, drôle de bête qui se tient debout et recèle d'astuces et d'intelligence pour naviguer sur cette grosse boule montagneuse qui sans cesse tourne sur elle-même comme une grand-mère radotante. Pourquoi ? D'aucuns véganes radicaux et autres milices actives de la PETA voudraient rappeler que le pangolin ne peut être tenu pour responsable de cette crise mondiale sans précédent. Je leur prierai d'adresser leur déconvenue à quelqu'un que ça intéresse, une autre que moi, qui souhaiterait développer ces sujets de conversation de salon.
On pourrait certes croire que les réseaux sociaux, cet outil dangereux et surchargé, seraient une fenêtre salvatrice pour nous les narcissiques, d'autant que le gros réseau de faces bleues a ajouté une nouvelle réaction, celle d'un émoticône petit bonhomme jaune enlaçant un cœur, soulevant au passage leur engagement actif et sans faille pour le salut de nos populations. Mais il n'en est rien, les likes multipliés par cette période d'enfermement ne sont qu'un pauvre placebo amer qui n'égaleront jamais l'ombre d'un regard brillant au détour d'une réunion de plus de 10 personnes, ce qu'on appelait encore il y a quelques mois une fête. Le rire cascadant d'une gorge déployée répondant à un trait d'esprit vif et bien placé, les applaudissements accompagnant l'entrée ou la sortie d'une drama queen pâmée de son orgueil piqué. Non, aucun pouce bleu grossier, aucun bonhomme jaune, aucun clic ne peut faire l'effet de ces sourires en chair que l'on fait plus que donner et voir, qu'on ressent comme des gouttes de plaisir venant draper nos peaux, s'imbiber dans nos veines et renforcer nos os encore mieux qu'un Danone au bifidus actif. Mais très cher, je vais mal, comme le monde qui me copie tout le temps. Vous me manquez. J'ai perdu le goût de m'habiller, je déambule ainsi nu et non coiffé dans ma galerie des glaces, n'y tenant plus, je brise le confinement, venez, venez à la maison, parez-vous de vos plus belles pelures et dansons ensemble, foule démultipliée par les 1000 reflets, dansons jusqu'à la fin, jusqu'à nos pieds en sang, jusqu'à nos derniers souffles, qu'on y crève tabou, c'est là l'unique sortie, mais qu'on y crève ensemble dans des jeux de regard.
Et je veux dire, en tant que Miss Déshydratation, que effectivement j'ai une centaine de nouveaux followers. Je suis hyper content. C'est des cafards. Mais par contre, ils sont tellement fidèles.
Ok, on va faire une petite mini pause musicale. Après, on se retrouve avec le billet d'humeur de King Baxter. Ok, un numéro.
La moins courte.
Un morceau de moins de 3 minutes.
Un morceau de moins de 3 minutes. 13, ok, merci. Non, 4 minutes 18. Mais je sais pas, dites-moi un numéro.
32.
Non, mais vous êtes grave, hein. 32, bon, allez, ok, c'est pas grave. Je vais choisir à votre place. On va prendre la plus courte. C'est pas moi, c'est cool. URSA, Yacht Club.
Une émission soutenue par la Fédération Schlagonie Bruxelles.
Bonsoir, c'est King Baxter.
Bonsoir Baxter.
Salut. Aujourd'hui, on est le 2 mai et 18h51. Donc ça veut dire que j'ai 9 minutes. Je viens vers vous pour faire un appel à la participation concernant une recherche sur une meilleure inclusivité dans le langage. Alors c'est un projet que j'ai eu en tête comme ça, et je me suis dit que ça serait pas mal qu'on commence à se réunir par et pour et puis pour toujours. Le but étant d'inventer ou de réinventer de manière désinvolte, bien évidemment, le langage francophone et de proposer des alternatives. Je me propose premièrement en tant que secrétaire, c'est-à-dire que je me réserve aussi le droit, suivant mes dispositions physiques et morales, à passer le flambeau à d'autres personnes motivées et vice-versa, bien évidemment. Bien sûr, de manière autogérée, c'est-à-dire que je ne souhaite pas être seul pour organiser tout ça. Nous pouvons être, il me semble, suffisamment nombreuses et nombreux pour dessiner un paysage de compétences et en jouir toutes ensemble. Pour toutes les personnes ayant déjà commencé, à titre personnel ou non, un travail sur le sujet, je vous invite à nous rejoindre. Enfin, nous, pour l'instant, je suis seul, mais j'espère qu'on va être beaucoup plus que ça. Le groupe permettant de visualiser ce que nous avons déjà en notre possession comme réflexion, suggestion et matériel pédagogique, j'aimerais que nous collaborons pour une meilleure inclusivité. J'ai créé pour ceci une adresse mail qui ne tient absolument pas compte de titre, parce que pour l'instant il n'y a pas de titre à cette recherche, mais l'adresse mail c'est inclusiwitch@gmail.com. Et oui, c'est Gmail. Je suis désolé, j'ai pas réussi à créer une adresse Proton ou whatever, je sais pas pourquoi ça marchait pas. Passons. Inclusiwitch, witch, c'est inclusiwitch@gmail.com. En première étape, donc, je vais lancer un lexical, donc répertorier tout ce que l'on a déjà, ranger en lexique et faire un texte de présentation. Ça sera la première étape. La deuxième étape, ça serait de faire un site, de diffuser et de mettre à jour constamment les recherches de la troisième étape. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qu'on peut inventer? Comment, quoi, pourquoi, qui, comment, quoi? Intervention, workshop, atelier, par les concernés, bien évidemment. Et une mise en pratique, c'est-à-dire que on se ferait des ateliers où on checkerait si nos inventions passent, si ça fonctionne, si tout le monde est ok. Et dans les personnes concernées, j'entends les trans, les intersexes, les non-binaires, les femmes, les marginalisées, les grosses, les lesbiennes, les racisées, les handis, etc. Toute notre famille qui est un petit peu laissée pour compte avec les pronoms neutres. Nous ne voulons pas être neutres, nous voulons être inclusifs. C'est quand même vachement différent. Pour toutes celles et ceux qui se sentent intéressés, voulant aider, participer à cette recherche, c'est-à-dire aussi nos alliés, nos partisans, nos amis, .e.s, nos frères et nos sœurs, je vous invite donc à m'envoyer un petit mail sur inclusiwitch@gmail.com. Pour que nous puissions ensemble nous réunir de manière virtuelle, bien évidemment. Et comme ça, ça nous permettrait aussi d'être un peu partout en France et en Belgique. Puisque je suis en Belgique, premièrement, je crois que j'ai fait le point. Travaillons tous ensemble sur l'écriture et l'oralité inclusif, par et pour toujours.
Wow. Merci. Merci, Baxter.
Merci, docteur. On se fait chier un peu hein, pendant le confinement, on lance des grands projets.
Bah écoute, non mais ça fait longtemps que j'y pense et je me dis que sincèrement, on peut très bien aussi viser des écoles de recherche comme des écoles d'art, travailler avec des étudiants qui aujourd'hui, bah oui en fait les queers sont aussi étudiants en art et je pense qu'on serait quand même beaucoup et plusieurs à être intéressés.
Carrément.
Et qu'en fait il faut qu'on se bouge le cul pour nous-mêmes.
Ouais.
On va pas se laisser emmerder par ces pronoms neutres qui n'ont aucun sens pour beaucoup d'entre nous.
Ah bah, j'aime de toute façon, comme dit Maïté, si t'attends que ça vienne, tu peux attendre longtemps.
Merci Maïté.
De rien, c'est toujours un plaisir.
C'est pas mal les étapes, ça faisait un peu le déconfinement à la belge.
Ouais, c'est ça.
Et par rapport au pronom neutre, en français surtout, ça devient principalement fondu dans le masculin en fait.
Exactement, c'est pour ça que j'aimerais une meilleure inclusivité.
Mais moi j'aime bien Yel. Hein.
Mais il y en a qui aiment bien Yel, il y en a qui aiment bien Yul, Eul, enfin en fait... J'aimerais qu'on réinvente véritablement des règles de jeu dans
moi,
le jeu.
J'aime bien l'accord à la romaine en fait. Le fait que non mais c'est vrai hein, les latins ils faisaient ça,
ouais,
ils accordaient le pronom au dernier qui a été dit, genre si tu dis, je sais pas moi, Magali et Jérôme sont beaux, Jérôme et Magali sont belles.
Oui, mais par exemple, si tu dis pas les prénoms des personnes concernées, mais que tu dis les bitches, tu dis quoi? Les bitches sont belles?
Ça dépend ce que t'as dit avant.
Mais j'ai rien dit avant. Donc, j'ai dit...
Mais si on dit les bitches sont jolies.
Commence ton truc comme ça.
Ah oui, donc voilà, choisit de l'adjectif.
C'est là l'importance de l'oralité aussi dans l'inclusivité. C'est qu'est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on le remodèle et comment est-ce qu'on passe par la phonétique pour aussi, pourquoi pas, genre rechoper par la phonétique de l'inclusivité, parce que joli, on n'entend pas s'il y a un le ou pas à la fin.
Voire créer des nouveaux mots d'ailleurs.
Voire créer des nouveaux mots, mais bien sûr.
Des nouvelles choses dans le langage.
Dans la littérature, il y a eu tellement de mouvements, dont on va dire aller au pif loulipo, qui ont existé et qui ont changé énormément l'aspect littéraire écrit et l'oralité, parce que ça s'il était performé à l'oral. Et du coup, je pense que on a que ça à foutre en ce moment. On est confiné.
On peut se réunir sur le langage.
Réinventons notre langage, bordel.
Ouais. C'est comme ça qu'on réinvente le monde. Oui, carrément. C'est dans le super bouquin de Ursula Le Guin Terremer que je vous recommande pendant le confinement.
Il est 57.
Il est 57. On va te couper en avance, peut-être. Je sais pas.
Est-ce qu'on met une chanson qui dure 7 minutes?
La 9. On se quitte avec la 9.
La 9 ou la 13?
C'est qui? Bah, dis-nous, c'est qui?
Alors, la 9, c'est Judith, Judas, Disco Blast, je crois.
Et la 5, c'est qui? Bon, Fessé et Pétasse, elles sont où? Mais nous, Fessé et Pétasse, merde.
C'est vrai, ça.
On peut écouter un peu de Berge, hein?
Non, mais.
Oui, après, on écoute souvent, on nous écoute souvent, c'est peut-être bien de découvrir d'autres personnes, non?
Non, on vous aime tellement.
Non, vous savez pas à quel point.
Ok, alors dites un chiffre.
Allez, mets la 9.
Ok, la 9, c'est Judith Judas avec Disco Blast. On vous embrasse.
Déshydratation vous dit.
Bisous.
Chronique Mutante, une émission soutenue par la Fédération Schlagonie Bruxelles.